notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang.
Pour un Mozart, pour un Van Gogh au désespoir. Combien de salauds dans l'histoire, de bourreaux d'ordures notoires, plus nombreux que les grains de riz. Combien d'ambitieux de pourris, du plus lointain à aujourd'hui. Qu'ils soient blancs, jaunes, noirs ou gris. Depuis qu'on a relevé la tête, qu'on aurait quitté les savanes, ça fait déjà quelques lurettes, partout où Sapiens se pavane, partout où il pose la patte, des fricheurs conquérants pirates, c'est que carnage et boucherie. Et la mort ricane et nous suit. Passent les siècles, les empires, passent les fils, passent les pères. À chaque fois, pareil et pire, comme un ressac revient la guerre. À chaque génération, les cimetières sur l'horizon, les champs de ruines à l'infini. Nous n'avons rien appris. À croire qu'on n'a pas de mémoire, que c'est écrit dans notre sang. Voilà qu'on remet le pouvoir, et ça depuis l'aube des temps. À des débiles, à des démons, cris des mutilés, des mourants. Fleuve de larmes, jamais tari. Malheur qui sombre dans l'oubli. Qu'on me montre dans nature, une espèce débile au point d'infliger supplice et torture à son semblable, à son cousin. Nous c'est que rapine et pillage. Combien d'Hitler au long des âges, de Staline pour un Gandhi. Nous n'avons rien appris. Massacre répété trop de fois, stupidité, crimes et cendres, à bout de honte, je hurle, arrêtez la terre, je veux descendre, je veux quitter la race humaine, me faire mouette ou bien baleine, n'importe quoi, goutte de pluie, plume graine au vent qui s'enfuit. Je veux quitter la race humaine, me faire moineau, roseau, vieux chêne, ruisseau, caillou, feuille, fourmi. Nous n'avons rien appris.
à tous, bonjour à toutes, c'est Radio Libertaire, la voix sans dune, email de la Fédération Anarchiste 89.4 en région parisienne, radio-libertaire.org dans le reste du monde. Aujourd'hui avec nous au téléphone Frédéric Grimaud. Frédéric Grimaud pour son livre Enseignant les nouveaux prolétaires, le taylorisme à l'école, paru aux éditions ESF. Bonjour Frédéric, tu es enseignant bonjour. Et docteur en sciences de l'éducation, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Bonjour et merci de l'invitation.
Oui, je te remercie à toi et merci surtout pour ta patience malgré les quelques problèmes techniques que nous avons rencontrés. Ça y est, on y est. Tu es enseignant et docteur en sciences de l'éducation. Peux-tu nous dire en quelques mots, en deux mots, ton domaine de recherche actuel?
Oui, bien sûr. Je suis dans un chantier de travail qui est lié à une convention entre un syndicat et mon université Aix-Marseille. Et mon travail de recherche porte sur le travail des professeurs des écoles.
D'accord. Pour introduire cette émission, je voudrais rappeler une séquence qui a donné et créé beaucoup de polémiques au début de l'année, au mois de janvier, de la toute nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra avait très peu de temps après sa nomination au ministère indiqué qu'elle avait placé ses enfants, inscrit ses enfants dans un établissement privé catholique dans un quartier très bourgeois de la capitale, le lycée Stanislas, pour pas le nommer, et elle s'était justifiée en disant que du fait de l'absentéisme répété et non remplacé des professeurs du service public, dont normalement elle devait avoir la charge, elle avait préféré donc inscrire ses enfants dans cette école privée, ce qui avait bien entendu déclenché toute une sorte de polémique qui avait abouti peu de temps après à la démission de cette ministre. Et on avait à l'époque parlé de bourde. On avait dit donc que cette déclaration était liée à une erreur de communication. Or, à la lecture de ton livre, on s'aperçoit qu'en fait, pas du tout. Ce n'est pas une bourde de communication. On va revenir un peu plus loin, si tu le veux bien, sur ce que signifie exactement cet épisode. Mais le sous-titre de ton livre, donc le taylorisme à l'école, moi, ça m'a un peu interpellé parce que Taylor, ça évoque pour beaucoup d'entre nous le film de Charlie Chaplin, Les Temps modernes, où on voit oui. Cet ouvrier qui court sur la chaîne. Peux-tu nous rappeler en quelques mots qui était Taylor et qu'est-ce que c'est que le taylorisme?
Oui, bien sûr. Alors Taylor, c'est un ingénieur américain qui, à la fin des années 1800, s'est demandé comment, alors lui, je cite entre guillemets, hein, il cherchait à lutter contre la flânerie naturelle des ouvrières et des ouvriers et à augmenter le rendement de l'entreprise, le rendement des entreprises capitalistes et aussi, de nationaliste, hein, c'est sur fond de puissance américaine, impérialiste, qu'il faut augmenter le rendement des entreprises pour rendre le pays plus puissant, pour gagner des richesses. Et donc, Taylor, il met en place une nouvelle méthode d'organisation du travail. Et de mon point de vue, et c'est le point de vue que je développe dans le livre, l'objet principal, c'est pas tant d'augmenter le rendement que de prendre le pouvoir sur le travail, c'est-à-dire de confisquer l'expertise des travailleuses et des travailleurs pour les mettre aux mains de ceux qui organisent le travail. Et ça, pour moi, c'est ça qui signe le taylorisme. Alors, après, ça c'est dans ces principes, on peut dire que globalement, il y a des grands schémas qui se dégagent, comme l'importance qu'ils donnent à la prescription, comme la division verticale et horizontale du travail, de la tâche, et bien sûr, tout ça justifié par la science. Et j'essaie d'expliquer dans le livre que les réformes qui arrivent dans l'éducation nationale ces dernières années, on peut leur trouver une filiation dans la philosophie de Taylor, à la fois d'organiser le travail de manière scientifique et à la fois de vouloir prendre le pouvoir sur la tâche et les outils pour l'exécuter à la place des travailleuses et des travailleurs qui l'ont.
Et donc cette organisation du travail, d'ailleurs tu parles d'organisation scientifique du travail de l'éducation, hein, c'est bien ça?
Ben oui, du coup, oui, tout à fait, parce qu'en réalité, les récentes réformes qui sont arrivées chez les professeurs des écoles, elles relèvent de cette logique-là, de se justifier par la science, hein, c'est ce que a beaucoup fait Jean-Michel Blanquer en créant un conseil scientifique de l'éducation, et donc en disant la science dit ça, et donc, mais à partir de maintenant, il n'y a plus qu'une seule bonne façon d'exécuter le travail pour les professeurs des écoles, il y a des manuels labellisés, il y a des guides de bonnes pratiques, il y a une formation aux bons gestes qui ressemble à ce que Taylor appelait la « one best way », puisque Taylor, lui, y pensait, dur comme fer, et il s'est arc-bouté sur cette idée qu'il faut essayer de trouver la « one best way », une seule bonne manière de faire le travail.
Donc on aboutit à ce que tu appelles, toi et beaucoup d'autres auteurs, hein, des sociologues du travail se sont penchés sur cette question, d'autres sociologues se sont intéressés à des organisations de services publics, hein, comme la santé, mais aussi les transports, etc. Donc ça aboutit à la mise en place de ce qu'on appelle, donc dans une forme de novlangue, le nouveau management public. Le new public management. Quand est-ce que ça commence, cette histoire de nouveau management public, et particulièrement quand est-ce que ça commence à l'école? J'imagine que ça a commencé bien avant Blanquer et bien avant Macron.
Oui, en fait, même si on veut faire un peu d'archéologie, Taylor lui-même disait les méthodes scientifiques d'organisation du travail que je propose, mes principes, ils peuvent s'appliquer dans les services publics. Il disait déjà ça il y a 30 ans. Mais en réalité, quand le taylorisme a migré en Europe, c'était surtout dans les services privés. Et dans les années 90, sous la pression de l'OMC, sous la pression des traités internationaux et européens de commercialisation des services, il y a eu cette idée de vouloir d'abord privatiser les services publics, hein, mais pour pouvoir les soumettre à la concurrence libre et non faussée. Et pour les services publics qui ne peuvent pas être totalement privatisés, ou du moins où ce n'est pas encore l'heure, eh bien, il y a cette idée qu'il y a, dans ce cas-là, il faut les faire fonctionner comme des entreprises. Et donc, importer dans la fonction publique des nouvelles normes de travail qui sont héritées du secteur privé qui lui est animé par des questions de performance, de compétitivité, de rentabilité, etc. Moi, c'est pas ma spécialité, je suis pas économiste ou quoi, mais j'ai retrouvé trace de cette expression de New Public Management au début des années 90, disons, notamment dans les écrits de Christopher Wood en 91, où je pense que c'est un des premiers à avoir utilisé cette expression, mais elle est désormais consacrée et elle englobe toutes ces manières de faire, toutes ces manières d'organiser le travail qui sont guidées par les chiffres, en fait. C'est-à-dire que c'est la gestion des deniers publics qui est guidée par des indicateurs chiffrés.
Alors, la productivité dans une entreprise, ça peut éventuellement se concevoir assez facilement. On va augmenter l'intensité du travail pour augmenter le nombre d'unités produites par unité de temps. Voilà, au lieu de faire 3 voitures à l'heure, on va en faire 4 ou 5. Ça peut se concevoir. Mais la productivité à l'école, c'est un petit peu plus difficile à imaginer, à concevoir. Comment on peut articuler ça? Quelle est la finalité? Est-ce qu'il s'agit, à travers toutes ces mesures, de préparer éventuellement la privatisation du système d'éducation, comme on a fait pour les transports, pour l'énergie ou pour le courrier, par exemple? Ou alors, est-ce que c'est simplement une vision idéologique, une façon d'instaurer un climat très particulier, de façon à imposer un modèle? Comment on peut essayer de comprendre sa productivité à l'école?
Alors, on peut le prendre de 3 manières différentes. D'abord, on peut rester, et à mon avis, c'est une raison au moins nécessaire, mais peut-être même suffisante en soi, sur cette idée que le vrai objectif du taylorisme, du nouveau management public, des réformes néolibérales dans la fonction publique et notamment dans l'école, le premier vrai objectif, c'est de subordonner le travailleur. D'accord? Avec un effet au carré dans l'école, puisqu'en subordonnant les profs, on prépare les élèves aussi à la subordination. Donc, c'est-à-dire, c'est préparer une société de la subordination. Et pour que la classe dominante, elle ait le pouvoir, et notamment le pouvoir sur le travail, c'est tellement important, le travail dans la société. Ça organise complètement les rapports sociaux, ça organise complètement les relations qu'on a entre nous, le transfert des richesses, etc., etc., que ça peut pas, le pouvoir pour la classe dominante ne peut pas appartenir complètement aux mains des travailleurs. Donc, il faut qu'il leur enlève ce pouvoir. Et c'est déjà une raison en soi qui, à mon avis, explique ces réformes. Après, il y a effectivement celle que tu dis, qui est d'abîmer le service public, parce que ces réformes managériales, elles n'ont pas un bon rendu, contrairement où on pourrait imaginer que dans la société automobile, oui, le fait de partialiser la tâche, de diviser verticalement le travail, de mettre la pression sur les travailleurs, même si ils en souffrent, voilà, eh bien, au bout du bout, on produit plus de voitures, pour reprendre ton exemple. Mais dans l'éducation nationale et dans les services publics en général, ça a plus mauvais rendu. un plus mauvais rendu. On le voit en ce moment même en Angleterre, par exemple, il y a tout un mouvement pour renationaliser le rail hein, suite aux réformes de Thatcher, parce qu'on voit bien qu'une fois que ça a été mis au privé, en réalité, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Et n'importe quel auditeur ou auditrice de ta radio, ils peuvent faire l'expérience que c'est pas parce qu'on a privatisé EDF et on l'a mis en concurrence avec d'autres producteurs d'énergie que ça a amélioré la qualité de que ça a amélioré la facture d'électricité que tu payes à la fin de chaque mois. Donc la qualité du service est moins bonne, et comme elle est moins bonne dans l'école, ça va créer un mouvement de fuite des familles vers le service privé, ça va créer de l'externalisation de certains services comme l'aide aux élèves en difficulté qui, au lieu d'être pris en charge par l'école, vont être pris en charge par des secteurs privés, hein, par les orthophonistes et les psychomotriciens libéraux, etc., etc. Ça, c'est donc le deuxième effet, c'est de soit privatiser une partie en externalisant de l'école, soit la préparer à une future privatisation. Et le troisième effet, qui est non négligeable, c'est que en faisant ça, en subordonnant les travailleurs, en les faisant obéir à des consignes qui parfois vont à l'encontre de l'histoire de leur métier, eh bien, on les rend plus promptes à accepter une école inégalitaire. C'est ça qui se met en place. Une école inégalitaire sous les politiques libérales qui sont menées depuis quelques années. Voyons le débat qu'il y a en ce moment entre Belloubet et Attal sur les groupes de niveau, groupes de besoins, etc. Mettre en place des groupes de niveau au collège, c'est-à-dire trier les élèves entre les bons, les pas bons, et qui en général sont, enfin bons entre guillemets, bien entendu, hein, et qui en général en plus sont ceux qui sont issus des classes populaires ou ceux qui sont issus plutôt de la bourgeoisie, faire être un agent du tri social, d'accord ? C'est pas pour ça que les profs, ils ont signé. Donc pour leur faire accepter de devenir des agents du tri social, il faut au préalable les avoir complètement déqualifiés et les avoir dépossédés de l'histoire et de la culture de leur métier.
Il y a un terme qui revient assez souvent dans ton livre et qu'on entend aussi dans d'autres contextes, c'est celui de l'école entreprise. Ça va tout à fait dans le sens donc de cette mise en place du new public management, du nouveau management public, et puis de la mise en place aussi du taylorisme à l'école. Comment on justifie cette transformation de l'école service public en école entreprise? Quels sont le langage, les outils, comment ils appellent ça en communication, donc les éléments de langage qui vont permettre de peu à peu de faire passer cette idée auprès du grand public, auprès des usagers, auprès des instituteurs et parfois même auprès des élèves, que l'école finalement c'est comme une entreprise, ça doit être dirigé avec un patron, etc. Comment ça se met en place?
Alors quand on utilise le terme école entreprise, il peut être vu en deux dimensions. Bien sûr, il y a d'abord l'école au service de l'entreprise, c'est-à-dire dont les contenus seraient ceux qui vont être utiles au patronat de demain. Ça, c'est une première définition, c'est pas celle dont tu parles, mais elle existe aussi et elle est en creux, il faut aussi la dénoncer. Par contre, ce qui se passe avec l'arrivée du nouveau management public, elle est basée sur une philosophie libérale qui dit que les structures, les établissements, en tout cas pour les écoles, chaque établissement, à défaut d'être complètement privatisé, doit fonctionner comme une entreprise, donc doit être une mini-entreprise, hein, et ça Jean-Michel Blanquer l'explique dans son livre, et c'est revenu y compris dans le Grenelle de l'éducation, des mini-entreprises, il dit ce mot, qui sont pilotées. Jean-Michel Blanquer utilise même le mot patron, par un patron. Donc dans chaque établissement, il faut qu'il y ait un pilote qui soit en charge de pouvoir produire des indicateurs chiffrés, de faire du reporting, pour pouvoir piloter son école, qui du coup, autonomisée, va être mécaniquement mise en concurrence avec l'école d'à côté. Puisqu'il y a une somme finie hein, de moyens à allouer aux écoles. Et donc l'idée, c'est de produire des projets pour pouvoir accéder à des fonds, signer des pactes, pour pouvoir obtenir de l'argent. Et donc l'école, petit à petit, elle devient effectivement, sur le modèle d'une petite entreprise, ce que je dis pour l'école, c'est valable pour un hôpital, c'est valable pour un bureau de poste, etc., etc., qui se retrouvent tous en concurrence les uns avec les autres. Et c'est parce que ce grand rêve libéral, il est basé sur un fantasme, c'est celui que si on crée de la compétition déjà entre les uns entre les autres, si on est tous en compétition les uns contre les autres, si les établissements sont tous en compétition les uns contre les autres, etc., ça va créer une forme d'émulation qui va améliorer la qualité de ce qu'on fait. En fait, c'est faux, hein, voilà. Ça nous fait plus perdre du temps et ça met les gens sous pression, les agents sous pression, ça crée des conflits avec les familles, etc. C'est plutôt délétère en réalité, mais ça reste quand même un paradigme très fort. Et effectivement, tu as raison pour habiller tout ça, parce qu'on ne nous dit pas à partir de demain, vous allez être une petite entreprise avec un patron qui va. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on dit. Par contre, il y a tout un habillage de la novlangue néolibérale, comme l'innovation, par exemple. Il faut être innovant, il faut qu'on développe nos compétences, il faut qu'on fasse des projets. Alors, évidemment, qui peut dire, c'est très dur d'y résister à cette novlangue, parce que qui va dire, ah, mais moi, je suis un prof, mais j'ai pas envie d'être innovant, j'ai pas envie d'être compétent, j'ai pas envie de faire des projets. Bon, bien évidemment. Donc, mais il faut quand même qu'on arrive à décortiquer, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, que derrière ces mots, il y a une réelle idéologie qui vise en réalité à la subordination du travailleur et à une école du très social.
Tu expliques bien dans la première partie de ton livre les différents leviers qui sont mis en place et utilisés par les responsables politiques et leurs exécutants, hein, qui sont par exemple les réductions de crédit, les fermetures de postes. Tu rappelles que depuis Sarkozy, plus de 70 000 postes ont été supprimés dans l'éducation nationale, ce qui est quand même un chiffre assez conséquent. Tu expliques aussi que on va intensifier les tâches, on va augmenter le temps de travail. Ça se met en place progressivement. On peut essayer d'illustrer un petit peu ces quelques points.
Oui, bien sûr. C'est ce que j'appelle, parce que si tu veux, pour définir le terme prolétarisation, qui est quand même polysémique et le mot prolétaire, on peut le discuter. Hein. Je l'explique en deux dimensions. Une des premières dimensions, c'est celle dont tu viens de parler, qui est une forme de dégradation des conditions de travail, du salaire, de la profession aussi, des protections qu'elle offre. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai appelé une précarisation en réalité, une précarisation de la profession enseignante. Et évidemment, il y a une surcharge de travail. 70 000 postes supprimés et quasiment jamais remplacés. Mécaniquement, ça va donner plus d'effectifs dans les classes. La suppression des RASET, par exemple, des réseaux d'aide, alors ils ne sont pas complètement supprimés, mais en tout cas, le fait de les avoir pratiquement détruits, eh bien, ça va faire qu'il y a de plus en plus de difficultés dans la classe, parce qu'il y a de moins en moins d'aide aux élèves en difficulté. Donc, il y a une charge de travail aussi après l'école. Ça, j'ai mené de grosses recherches là-dessus, sur la charge de travail des enseignants lorsqu'il n'y a pas les élèves, parce que les enseignants bossent quand même, hein, quand ils préparent leur classe, ils corrigent, ils font des recherches, etc. Et il y a aussi une inflation de tâches, des mails à lire, des nouvelles circulaires qui arrivent régulièrement, qui augmentent la charge de travail. Et le salaire, hein, on ne peut pas non plus complètement écarter cette question-là, parce que si depuis 30-40 ans, le salaire des enseignants a augmenté de 25% à peu près, le salaire moyen, l'inflation, elle a augmenté de 60%.
On reviendra plus en détail un peu plus tard.
En tout cas, tout ça, ça participe d'une dégradation des conditions de travail en général de la profession. Oui, tout à fait.
Le but, bien sûr, de tout ça dans la bouche des responsables politiques, c'est bien entendu d'améliorer le service. C'est ça qu'on nous vend, hein.
Oui, c'est ça qui vend, effectivement. C'est pas le cas. En fait, d'abord, le premier but qui est dénoncé, notamment par les organisations syndicales, et qui ont bien raison, c'est de faire des économies budgétaires. Parce qu'il y a quand même une pression de l'OMC, une pression à la réduction de la dette dans tous les pays de l'OCDE, et notamment en France, qui est très forte. Hein. Et bien évidemment, c'est pas à vous que je vais prêcher pourquoi ils font ça. Hein. C'est pas pour réduire la dette ou je sais pas quoi, c'est pour faire... pour que les richesses passent des poches du peuple aux poches de la classe dominante.
Ça s'appelle le ruissellement, mais c'est du ruissellement du bas vers le haut.
Oui, c'est ça, voilà. Il s'arrête très vite, le ruissellement. En fait. Voilà. Ils prennent l'argent et après ça s'arrête. Et
tu parles aussi des critères d'évaluation, et en particulier des critères d'évaluation internationaux qui sont utilisés pour tenter de justifier ces politiques. Et parmi tous ces critères, il y en a de nombreux, il y a des tas d'acronymes. Il y a le critère PISA, dont on parle le plus, mais il y en a beaucoup d'autres. Comment ça se passe, ces évaluations, et comment on évalue, comment on met en place ces critères et ces classifications?
Alors, oui, tu as raison, il y en a beaucoup. Hein, ils sont ils sont à l'échelle internationale et il y a Pisa, il y a Pearce, il y a Teams, il y en a plein quoi en fait. Hein, il y a deux aspects que j'ai essayé de décortiquer de ces évaluations. Le premier, c'est celui qui est lié à ce que j'expliquais tout à l'heure au nouveau management public, donc qui est la gestion publique par des indicateurs chiffrés. Donc il faut faire remonter des chiffres, ce qu'on appelle le reporting en permanence. Il faut évaluer les résultats, les machins, tout ça, pour pouvoir piloter le système. D'accord ? Donc le système est piloté par des indicateurs chiffrés. Donc il faut que les enseignants en fassent remonter. Et donc c'est pour ça qu'on met en place des évaluations qui sont en réalité des évaluations normées et qui arrivent au même moment à tous les élèves. Parce que dans le métier enseignant, je conteste pas le fait que les enseignants évaluent, hein, d'accord, les élèves. Je sais bien que dans l'histoire du métier enseignant, les profs évaluent. Il y a des moments où on a besoin de savoir où on en est des apprentissages, voilà. Et donc, mais les enseignants, avant, s'ils ont une expertise professionnelle, ils savent construire leurs propres évaluations. Là, il faut bien noter que ce sont des évaluations calibrées, préparées en dehors de la situation de travail. C'est pas les profs qui ont créé ces évaluations. Et elles vous arrivent le même jour, au même moment, dans toutes les écoles de France. Et les enseignants, maintenant, n'ont même plus à les corriger. Ils rentrent dans un serveur informatique les résultats des élèves qui ensuite sont mixés par un logiciel. Donc, en réalité, c'est juste du reporting. Ça, c'est le premier truc. Et ce que ça va créer, ça crée un phénomène qui est largement documenté par la recherche en sciences de l'éducation, hein, qui s'appelle le teaching to the test ou le pilotage par les évaluations. C'est qu'à un moment donné, l'enseignant va enseigner. Non plus, c'est pas lui qui va créer, qui va faire ses propres choix pour dire je vais plutôt faire ça aujourd'hui, je vais plutôt enseigner ça ou pas. Comme il sait que, par exemple, le 20 février, il y a tous ses élèves vont être évalués sur cet item-là, bah, du coup, c'est cet item qui va enseigner. Et donc, du coup, c'est un moyen puissant aussi, ces évaluations, de subordonner l'enseignant à des nouvelles normes de travail. Tu comprends ? Je donne un exemple pour les auditrices et les auditeurs pour bien éclairer. Par exemple, il y a 2-3 ans, un peu plus, peut-être, le ministère, le conseil scientifique mis en place par Jean-Michel Blanquer, a dit qu'il fallait faire de l'affluence, donc qu'il fallait chronométrer la performance des élèves en nombre de mots qu'ils lisent à la minute. Okay ? Ça, c'est largement discutable dans le métier enseignant, dans la culture professionnelle, de celles et ceux qui font apprendre la lecture et qui savent que c'est une activité sociale, une activité de communication, une activité qui nous permet d'accéder à l'imaginaire, et pas une activité qu'on chronomètre et qui est mécanique comme ça. Mais donc il y a eu une résistance naturelle du métier à cette réforme. Sauf que maintenant, en janvier, tous les élèves de CP sont évalués sur cette compétence. D'accord ? Donc à un moment donné, on demande à tous les enseignants de chronométrer leurs élèves, de rentrer dans un serveur combien de mots ils ont lu à la minute. Les enseignants, toute l'école le sait, les familles le savent, etc., etc. Donc il y a une pression très forte à faire ça. Et donc, du coup, mécaniquement, même ceux qui étaient résistants à cette conception-là de ce qu'est la lecture, ben, ils finissent par par mettre en place cette réforme-là, parce qu'il y a des évaluations qui viennent. Donc, on voit en quoi cette évaluation, elle est aussi un outil puissant pour exercer une coercition sur la liberté, sur l'autonomie procédurale du travailleur.
On va faire une pause musicale avant d'enchaîner sur la suite de ce que tu nous apprends dans ton livre. À tout de suite.
Petite sœur, il est quelle heure? Je t'écoute.
Il est midi, c'est l'heure du casse-croûte. J'ai une envie irrésistible de manger des araignées, des puces, des poux bien épicées, une horde de scarabées avec du beurre, enfin bref, des horreurs.
Mais si continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
Petite sœur, il est quelle heure? Dis-le-moi vite.
Il est midi, allume le feu sous la marmite.
J'ai cuisiné un fricassé de bras cassés, doré à souhait, un tas de trucs dégoulinants, très délicats à digérer, des asticots, des ragluons, des gros gugus un peu cramés, brouillants, bouillants, enfin bref, dégoûtants.
Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
J'ai le ventre qui m'appelle.
Il est midi, j'ai fait chauffer les gamelles. On va goûter un velouté de vieux ministres avinés, relevés à l'Elysée, et de quelques lois à la noix, un pot-au-feu de députés, un patron qui pue les pieds et le fromage. Enfin bref, mon courage.
Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
les classes.
Quelle heure est-il? J'ai le ventre qui grimace.
Qui gargouille, qui crie fort.
Qui fait la grève et qui se
trompe. Qui est sur ma vie,
une école qui tombe en ruine.
Les entrailles qui me tiraillent.
Et mon pays qui déraille.
On met des marmots pour les fonds.
Des larvons qui ont les jetons.
Des gamins dans le pétrin.
Souffle, très inquiet.
Et c'est la fin des haricots.
Et c'est la fin des haricots.
C'est la fin des haricots.
J'ai les poules, j'ai les fleurs.
J'ai du sel de gamin.
C'est la fin des haricots.
Je les gros sur ma pointe, j'achète un poster travail.
C'est la fin des haricots.
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 C'était les Ocres de Barbac qui interprétaient « Touche pas à mon école ». C'est toujours Radio Libertaire 89.4 sur 89.4 MHz, Radio Libertaire.
Parti. Parti.
Toujours sur Radio Libertaire, la voix sans dénimètre de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, radio-libertaire.org dans le reste du monde. Aujourd'hui, la société dans tous les états, nous avons la chance d'être au téléphone avec Frédéric Grimaud pour son livre « Enseignant les nouveaux prolétaires, le taylorisme à l'école » dans une première partie de l'émission, juste avant la pause. Nous avons pu définir quelques items et nous avons vu à quoi correspondait le taylorisme, le nouveau management public et puis l'évaluation. J'aimerais dans cette seconde partie, si tu veux bien Frédéric, qu'on aborde vraiment ce qui fait le cœur du métier d'enseignant. D'abord, un terme qui est très fort, c'est que l'enseignement, c'est un métier, et tu parles même dans ton livre, tu parles d'un terme anglais que je trouve très fort et dont on a du mal à avoir une traduction satisfaisante en français, qui est celui de skill. On pourrait le traduire par habileté, mais ça va bien plus loin que ça. Est-ce qu'on peut développer cette idée de métier justement à laquelle les néolibéraux et les tenants de ces politiques opposent la terminologie de compétence. J'aimerais bien qu'on insiste là-dessus.
Comme traduction, je me suis mis habileté professionnelle. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Je ne suis pas vraiment anglophone, mais autant parler du métier. Hein, donc, parce qu'il y a deux aspects. Et il y a deux aspects à ce type de compétence, à cette habileté professionnelle. Il y a ce qu'on pourrait appeler le professionnalisme et la professionnalité. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que les travailleurs sont outillés des deux. Hein, ils possèdent les deux. Et c'est très important. Mais le professionnalisme, si tu veux, c'est la capacité du travailleur à répondre à la prescription. D'accord, à la prescription qui lui est faite. Le professionnalisme, tu es meilleur dans ton professionnalisme quand tu sais bien appliquer la consigne qu'on t'a donnée. La professionnalité, c'est la capacité du travailleur qui est aussi un être humain, qui a son expérience propre, qui est du métier, qui a acquéri des gestes et de l'expérience et qui a des outils qui sont forgés par l'histoire de son métier, et donc sa professionnalité, c'est sa capacité à réagir en temps réel avec la réalité du terrain. On le voit très bien quand on fait des métiers comme l'enseignement, eh bien, entre ce qu'on nous demande de faire, voire même ce qu'on a prévu de faire, et ce qui se passe vraiment avec 25, 28, 30 élèves en face de nous, et parfois c'est pas la même chose. Donc il faut comme ça, en permanence, faire des allers-retours, faire des compromis, faire des réajustements. Ça, c'est la professionnalité. Or, les logiques tayloriennes ou managériales de ces dernières années, elles mettent l'accent sur le professionnalisme, et donc elles vont dire l'enseignant doit être compétent, et pour être compétent, eh bien, en fait, comment est-ce qu'on juge qu'un enseignant est compétent? C'est celui qui s'engage bien dans l'application de la prescription. Tu vois, et donc ça, pour moi, ça va à rebours d'un autre aspect hyper important du travailleur considéré comme un être humain, c'est sa capacité à faire face au réel. Tu vois, et du coup, on rentre comme ça dans une conflictualité entre des choses qui devraient être complémentaires, parce que tout l'accent est mis sur le professionnalisme, et ça, vraiment, hein, c'est quelque chose qui est hérité de Taylor. Taylor, lui, il a créé ce qu'il appelait les bureaux de répartition du travail, dans lesquels l'ingénieur fabriquait des fiches d'exécution. Et chaque travailleur devait exécuter cette fiche. Et tu vois bien que ça va à l'encontre d'un travailleur qui a du métier et qui, du coup, peut avoir une vision plus globale de la tâche. C'est fondamental, hein, d'avoir une vision globale de la tâche. Moi, je dis, dans le bouquin, je sais que ça peut se discuter, hein, le métier de professeur des écoles, comme tous les métiers, en réalité, il faudrait qu'on les regarde plus comme des métiers d'artisans que comme des métiers de prolétaires, au sens où on obéit à une consigne qui a été fabriquée par quelqu'un d'autre.
En fait, c'est là où, c'est un peu le cœur de ton travail, enfin du moins dans ce livre, c'est que tu montres bien comment l'enseignant, comme l'ouvrier de la fin du XIIe siècle et du début du XXe siècle, lorsque Taylor a voulu se mêler de son métier, comment l'enseignant s'est vu dépossédé littéralement de ses habiletés, de sa pratique, de son métier, comment il a été confronté à une parcellisation de ses tâches et comment ça a abouti finalement à sa déqualification.
C'est ça, tout à fait. Alors, précisons quand même, parce que tu remarques bien dans le livre, pour moi, c'est quelque chose qui est en cours. Hein. Je ne dis pas que c'est fini, ni qu'on y est complètement. Je dis que c'est le moment d'alerter, parce que c'est quelque chose qui est en train de se passer. C'est ce que je dis. Là aussi, je reprends le terme de Friedman, de déqualification. C'est ce deuxième aspect de l'aspect prolétaire. Tout à l'heure, on a parlé de la précarisation, hein, du fait de précarisation des carrières, des salaires, etc., des conditions de travail. Et il y a l'autre aspect qui me semble fondamental, plus important et souvent dans l'angle mort des, à la fois des recherches en sciences de l'éducation mais aussi de la pensée syndicale militante, cet angle mort c'est justement tout ce qui relève des savoirs et des savoir-faire pour travailler qui sont propres aux enseignants, qui sont propres à leur métier, et à mon avis c'est ça le cœur de cible des politiques managériales, c'est d'attaquer l'expertise professionnelle, tout à fait.
Tu cites à un moment donné un auteur que j'ai découvert grâce à ton livre qui s'appelle Brunner, c'est ça, où il parle du travailleur qui arrive sur la scène où se joue le travail comme un acteur qui viendrait au milieu d'une représentation théâtrale.
Oui, Jérôme Brunner, c'est un psychologue américain qui a cette expression que je trouvais très bien illustrée, qui dit quand on arrive sur une scène, quand on arrive sur un milieu de travail, donc les profs quand ils arrivent dans une école, ils sont comme un acteur qui arriverait sur une scène qui a déjà commencé, sur une pièce de théâtre qui se joue. Et ça, comment il faut l'entendre? Il faut l'entendre que quand on arrive, il y a des gestes professionnels, il y a des outils qui ont été éprouvés par d'autres avant nous, qui se sont construits dans une histoire, qui se sont construits et qui ont créé une culture porteuse de valeurs, porteuse de normes, et que quand on rentre dans une profession, on prend le temps d'intégrer tout ça en fait, hein, et donc on peut pas arriver en ignorant que la pièce a déjà commencé. Et donc, j'essaie d'expliquer tout ce qui appartient déjà à la scène et tout ce que le nouveau management essaie de nous priver pour nous faire croire que un contractuel qui serait recruté en 20 minutes et formé en 2 jours à la fin de l'année, il pourrait jouer dans la même pièce de théâtre que ceux qui ont déjà appris le texte, quoi. C'est pour reprendre la métaphore de Brunner.
En plus, donc, on nous vend l'idée depuis de longues années déjà, et ça revient régulièrement à travers certains éditorialistes des médias, on va dire, du courant dominant, que les fonctionnaires en général, les enseignants en particulier, sont des privilégiés. C'est-à-dire que les privilèges dont ils bénéficient, ce sont des garanties collectives qui leur assurent un statut professionnel avec tout ce qui va avec, c'est une garantie de l'emploi, avec des revenus dont on voit bien qu'ils sont en train de diminuer. C'est pour dresser une partie de la population contre ces fonctionnaires qui seraient des privilégiés de ce fait-là. Bien entendu, ces garanties professionnelles, ce statut, va à l'encontre des politiques en cours qui veulent justement casser ces statuts. C'est bien ça.
C'est ce que Salomon appelait un storytelling, c'est une histoire que se racontent les politiques et que les médias relayent. Hein. C'est des histoires, en fait, hein, vraiment, au sens, c'est des mythes, au sens grec du terme, hein, on va dire. C'est-à-dire, c'est des légendes qui permettent ensuite de pouvoir faire passer des réformes pour lesquels qui aurait une adhésion de la population, une adhésion du peuple, parce qu'avant on a construit l'image que les fonctionnaires sont des privilégiés, que comme disait Taylor, que les ouvriers sont des fainéants naturellement fainéants, que les profs, comme disait la porte-parole du gouvernement, préfèrent aller cueillir des fraises plutôt que s'occuper de leurs élèves, ou comme disait Xavier Darcos quand il était ministre, sont juste des gens qui sont juste bons à changer des couches à des enfants et leur faire faire la sieste. On construit dans l'imaginaire des gens, on construit une histoire qui après permet de mieux dérouler, de plus facilement dérouler des réformes qui en réalité vont viser à précariser les enseignants, des réformes comme le gel du point d'indice, comme les attaques contre le paritarisme, contre les commissions paritaires avec les syndicats, etc., qui vont fragiliser en réalité le métier, mais qui se justifient par le fait que dans la légende qu'on raconte, dans ce storytelling, les profs, ils reproduisent les inégalités sociales, ils sont pas bons, les enquêtes PISA, elles montrent qu'en fait, ils font du mauvais boulot. On a même eu quand même, à un moment donné, Jean-Michel Blanquer, qui dans la presse, a expliqué que les enseignants qui ne s'engageaient pas dans les réformes de l'apprentissage de la lecture que lui proposait, fabriquaient de la dyslexie. Tu vois, c'est hyper grave quand même, hein, c'est-à-dire que ce storytelling, là, qui est en réalité du prof-bashing, j'utilise beaucoup d'anglicisme, je me rends compte en même temps que je te parle là, mais ce prof-bashing, c'est-à-dire cette insulte permanente, ce dénigrement, voilà, on va dire comme ça, ce dénigrement permanent des enseignants, il peut atteindre des sommets extrêmement graves. Rendons-nous compte que Jean-Michel Blanquer, c'est pas le bonhomme que tu as rencontré au bar PMU du coin, c'est le ministre de l'Éducation nationale, c'est celui qui est tout en haut de la pyramide, et qui dit dans la presse que les profs peuvent fabriquer de la dyslexie. Tu vois, c'est grave quand même. Mets-toi à la place des familles qui lisent ça dans le journal. C'est comme si je disais, moi, les pilotes d'avion fabriquent des accidents ou les médecins fabriquent des virus. Tu vois, c'est grave quand même.
Oui, c'est ce que j'illustrais au début de notre conversation lorsque je rapportais les propos de la très éphémère ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'en prenait donc à l'absentéisme en grande partie imaginaire, puisque dans la polémique qui s'en est suivi, les personnes qui étaient visées ont complètement démonté l'argumentaire bidon de la ministre. Donc il s'agissait vraiment bien là d'éléments de langage qui visaient non pas, c'était pas une bourde, mais c'était vraiment s'inscrivait dans un storytelling, comme tu dis, quoi, une mythification des rapports sociaux de façon à justifier les politiques en cours.
Je l'avais
oubliée,
elle, tu vois.
Oui. elle est passée très vite à l'as. Hein. Ce qui est surprenant, enfin, oui, c'est surprenant, mais en même temps, ça va dans le cours malheureux de la pente naturelle de ces politiques qui sont menées à grand train depuis une trentaine d'années maintenant. Comment on est passé d'une catégorie socio-professionnelle qui était dotée à la fois d'un prestige social et d'une respectabilité et à la fois on avait une connaissance de l'utilité du métier d'enseignant pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui encore les familles espèrent beaucoup dans l'enseignement, dans l'éducation de leurs enfants et ils sont même prêts à payer pour te rendre compte à payer alors que normalement ce service devrait être gratuit et accessible à tous depuis au moins Jules Ferry, l'école laïque, obligatoire et gratuite pour tous. Et donc on est en train de casser. Et comment on est passé d'une profession donc dotée de ce on peut dire prestige social ou du moins d'une très forte respectabilité et de la part de la population d'une forme de reconnaissance à une situation dans laquelle les enseignants sont de plus en plus dénigrés, comme tu viens de le dire, comme on vient de l'illustrer, et aussi prolétarisés, dans ce sens où non seulement on les a déqualifiés de leur métier, de leur savoir-faire, de leur habileté, hein, de leur skill, comme disait Friedman, mais aussi on les a d'une certaine manière appauvris. Tu rapportes que il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, un enseignant débutant percevait un salaire qui était en moyenne de 2,5 fois le SMIG, et aujourd'hui c'est 1,5 ou quelque chose comme ça.
Oui. c'est ça. Oui, donc ça, alors évidemment, c'était 2,3 dans les années 80 et aujourd'hui 1,2 à peu près. Bon, deux fois le SMIC, quand tu commences, il y a une chute, il y a une dégringolade financière. Ça, mais ça, c'est une toute petite partie de l'application. Hein. Je pense que l'essentiel, c'est la prolétarisation qui a fait que l'enseignant a lui-même intériorisé cette idée qu'il n'est qu'un exécutant d'une tâche, mais y compris l'ensemble de la société commence à intégrer ce truc-là. Et si je peux permettre quelques parallèles, on pourrait dire par exemple que moi, si je vais acheter du fromage ou des légumes à un agriculteur du coin, je peux avoir confiance en la qualité de son produit parce que je sais qu'il en maîtrise complètement toute la chaîne et que c'est un savoir-faire qu'il a depuis longtemps, qu'il partage avec d'autres au sein d'une profession. Et je vais me dire, tiens, son fromage est de bonne qualité. Je peux remettre en doute un fromage qui a été fabriqué de manière industrielle dans une chaîne taylorisée. Idem pour si je vais acheter un couteau, par exemple, à un coutelier. Je me dis qu'il va être de meilleure qualité que celui que j'achète dans une chaîne d'ameublement où je sais qu'il a été fabriqué en Asie du Sud-Est dans une chaîne automobile. Et en réalité, on devrait avoir confiance à un métier d'enseignant artisanal qui est fait par des professionnels qui maîtrisent les compétences qu'ils ont. Je pense que la maîtresse de CP, par exemple, qui fait ça depuis 20 ou 30 ans, elle sait comment faire apprendre la lecture. Et les parents devraient avoir confiance en son expertise professionnelle, d'accord, en son skill. Et elle-même devrait avoir confiance et pouvoir être assise dans sa profession et pouvoir dire « oui, moi c'est bon, je sais faire ». Et donc, c'est ça qui a été abîmé. C'est ça qui a été abîmé par un phénomène de prolétarisation. Et c'est extrêmement grave. Mais on comprend pourquoi ils font ça quand même. Parce que, à un moment donné, un travailleur qui a cette compétence professionnelle et que lui-même se la reconnaît et que la société la lui reconnaît, il a une très forte puissance sociale. Il peut en imposer face au gouvernement, face à ceux qui voudraient le subordonner. Sauf que là, il y a eu 30 ans de déqualification permanente du travail pour en arriver à une situation où ni les enseignants ne se reconnaissent dans ce qu'ils font, hein, ils en deviennent malades, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a des
problèmes
réels sur leur santé, et en même temps, toute la société commence à intégrer ce truc que les enseignants ne sont pas spécialement compétents, et heureusement qu'ils ont des ministres qui vont leur imposer une one best way qui va les rendre plus compétents.
Tu abordes aussi une notion dont je n'avais absolument pas connaissance jusqu'à sa découverte dans ton livre, c'est celle de la liberté pédagogique de l'enseignant que tu mets en opposition avec tout ce qui est et tu rappelles d'ailleurs que l'ancien ministre devenu Premier ministre depuis, Gabriel Attal, on avait fait mention dans un de ses derniers discours en tant que ministre de l'Éducation sur les guides des bonnes pratiques et les manuels. Peux-tu nous donner quelques indications sur ces notions de liberté pédagogique et de ce qu'on tente de leur opposer, de lui opposer depuis quelque temps ?
Oui. Alors, d'abord, les enseignants, ils ont quand même des poches potentiel de résistance sur lequel ils peuvent s'accrocher, dont la liberté pédagogique, qui reste toujours inscrite dans leur cadre légal, d'accord ? Et un autre aussi, qui est la souveraineté du Conseil des maîtres. C'est-à-dire qu'une école, ça reste légalement, hein, je veux dire, un lieu démocratique où les décisions sont prises de manière horizontale, par le biais du Conseil des maîtres, qui garde sa souveraineté. Et ça, ce sont des anomalies dans le système libéral d'inspiration taylorienne, tu vois, c'est une anomalie que le travailleur il puisse décider, qu'il puisse avoir une telle autonomie procédurale et qu'il puisse décider de ce qu'il va faire. Donc les attaques contre la liberté pédagogique, elles ont toujours existé dans les forces réactionnaires dans ce pays et autoritaires, hein. Et même d'ailleurs Jean-Michel Blanquer à un moment donné il dit dans Le Parisien au tout début où il était élu, il dit oh la liberté pédagogique c'est pas l'anarchie, ok, tu vois. Alors qu'en fait, si on entend l'anarchie comme justement cette capacité à prendre des décisions soi-même et à pas être gouverné par une puissance extérieure, eh bien on voit en quoi ça va complètement à l'encontre de cette entreprise de subordination. Donc il y a des attaques très violentes contre les libertés. Et comment ça se manifeste ? Ça se manifeste par tout un tas de trucs, mais notamment par une taylorisation du travail à base de prescriptions fermées. Et donc, on a de plus en plus des guides de bonnes pratiques qui arrivent chez les enseignants et qui vont leur imposer une manière de faire. On a même Gabriel Attal, au mois de mars, il a envoyé un courrier aux enseignants où il a dit « Je souhaite qu'à partir de l'année prochaine, mettre en place des manuels labellisés par le gouvernement. » Donc, vous allez devoir utiliser il y aura des manuels labellisés ou pas labellisés. Et ça, c'est un vrai, une vraie rupture avec la liberté qu'ont toujours eu les enseignants d'abord de choisir le manuel qu'ils ont envie, hein, et ensuite, une fois qu'ils l'ont choisi, de pouvoir l'utiliser comme ils en ont envie. Et ça, vraiment, c'est cette liberté-là, je pense qu'elle est, elle est hyper importante à défendre.
Tu as effleuré juste tout à l'heure la question, et on va maintenant y revenir et la développer un peu plus, qui est celle de la souffrance au travail due à ces nouvelles conditions de travail et qui touche assez durement les enseignants, comme ça touche aussi les personnels des hôpitaux, les personnels de la poste. On se rappelle de l'affaire France Télécom il y a quelques années et dans d'autres secteurs d'activité.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est un constat que j'ai. Alors ce que tu appelles la souffrance, moi je parle d'altération de la santé pour pas qu'on s'enferme trop dans la question du souffrance.
Oui, tu as raison. Oui, bien sûr.
En tout cas, qu'on puisse penser que le travail fait souffrir de manière mécanique, d'accord. Je pense que c'est une mauvaise organisation du travail, c'est l'organisation managériale du travail qui altère la santé des travailleurs. Et avant d'expliquer les conclusions que j'ai pu tirer à la fin de ce chapitre sur pourquoi, d'abord c'est un constat très fort, c'est-à-dire que dans les enquêtes que j'ai menées, la plupart des enseignants me font part dans les entretiens préliminaires de sous diverses formes d'altération de leur santé. Certains sont au bord du burn-out, certains ont déjà pensé au suicide, hein, c'est pas rien quand même, t'as fait la comparaison avec France Télécom. D'autres veulent démissionner il y a des formes quand même plus ou moins graves et plus ou moins saillantes.
Ne serait-ce que les démotivations, par exemple.
Exactement, ça c'en est une. Mais c'est aussi objectivé par les syndicalistes que j'ai interrogés dans tous mes déplacements, qui montrent une inflation de coups de fil à la permanence téléphonique du syndicat, quels que soient les syndicats, pour dire comment je fais pour partir de ce travail, j'en ai marre, etc. Mais aussi, y compris par les enquêtes ministérielles, hein, comme la DEEB qui avait lancé dans le baromètre du bien-être au travail, qui publie chaque année, on voit une inflation des risques psychosociaux, comme tu dis, des chez les enseignants. Donc c'est pas un phénomène que j'ai inventé pour pouvoir grossir le trait des affres du nouveau management public, hein. C'est quelque chose qui est objectivé. Et maintenant, la question, c'est pourquoi ? Parce qu'on pourrait penser que c'est parce que les élèves sont de plus en plus difficiles. D'ailleurs, il y en a qui voudraient bien qu'on pense ça, hein, que ce sont les élèves en situation de handicap, les élèves des classes populaires, etc., qui rendent le travail difficile et que les profs n'en peuvent plus. On pourrait aussi penser que c'est uniquement l'augmentation de la charge de travail et la baisse du salaire, mais ça c'est pas quelque chose de négligeable, mais ça, tout ça, il faut le prendre en compte. Et à mon avis, le trait le plus saillant, c'est l'explosion des repères qu'on peut avoir quand on est un expert de son travail, ce qu'on appelle le sens du travail, c'est-à-dire ce qu'on y met comme valeur, comme engagement personnel et subjectif quand on fait l'expérience du travail. Ce sens-là, il est complètement explosé par un nouveau management public qui porte des injonctions paradoxales, qui verticalise complètement l'exécution de la tâche, qui impose des outils qui sont pas ceux de la profession, etc., etc. Et tout ça, ben, ça finit par rendre le sujet malade, ouais. Ça finit par altérer complètement sa santé.
On va faire une nouvelle pause musicale, si tu veux bien, et on se retrouve tout de suite après.
D'accord.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis, et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème, et en élit toujours les mêmes.
C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
C'était Graham Allwright. Qu'as-tu appris à l'école? C'était Graham Allwright. Qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui? Toujours Radio Libertaire 89.4 en région parisienne, radio-libertaire.org dans le reste du monde. La société est en sous-état aujourd'hui. Un entretien téléphonique avec Frédéric Grimaud pour son livre « Enseignant les nouveaux prolétaires, le taylorisme à l'école ». On a passé en revue juste avant la pause musicale donc les différents éléments qui ont conduit et qui conduisent à la destruction d'une certaine manière, à la remise en cause du métier, de la qualification d'enseignant, avec les conséquences sur la santé des enseignants. Pour aller un petit peu plus avant dans ce constat, tu relèves dans ton livre quelques propos assez, tu as parlé de Blanquer mais aussi de d'Attal, mais aussi de Macron, qui dit en gros que les enseignants qui ne voudront pas se plier à ces nouvelles règles ne seront pas augmentés. Donc on a vraiment des propos vraiment très durs. Il y a aussi d'autres méthodes qui sont mises en place pour casser à la fois le collectif enseignant, mais aussi dévaloriser, déqualifier le métier d'enseignant. C'est l'introduction des salaires différentiels, une sorte de prime au mérite. C'est ça, avec une part de salaire qui serait un petit peu au bon vouloir du directeur d'établissement.
Oui.
Et quelles conséquences ça peut avoir, et comment ça s'installe, comment ça se passe sur le terrain concrètement?
Alors ça c'est ce que tu appelles le salaire différentiel, c'est effectivement un aspect que j'ai essayé de développer parce qu'il est important, et en plus il est nouveau dans l'histoire du métier de professeur des écoles. Autant chez les profs du secondaire, il y avait déjà une part variable du salaire sur des heures supplémentaires ou des choses comme ça, et très rapidement le nouveau management public, quand il est arrivé dans les autres services publics, il a essayé d'imposer cette part variable du salaire. Cette part variable du salaire, elle a été créée, inventée par un ingénieur qui s'appelle Gant, Sir Lawrence Gant, qui est un contemporain de Taylor et qui même travaille dans la même usine. Okay, et donc, lui, il explique à Taylor, il lui dit, comment tu veux que tes ouvriers... comment tu veux lutter contre la flânerie naturelle de tes ouvriers puisque tu les payes tous de la même manière? Alors que si tu donnes un salaire différent à celui qui produit plus, mécaniquement, il va mieux s'engager dans ça. Et on retrouve ça... On le retrouvait déjà dans des rapports de Gérard Longuet ou de Sarkozy avec, je te rappelle, le salaire au mérite, travailler plus pour gagner plus, etc. Là, il y a un petit moment. Mais effectivement, dans le primaire, ça a été arrivé, c'est sous Jean-Michel Blanquer, hein, qui a voulu octroyer cette part variable du salaire. Et Emmanuel Macron en campagne a bien dit les enseignants font pas tous la même chose, pourquoi je paierais de la même manière celui qui s'engage ou pas dans mes réformes? Et depuis il y a eu la mise en place d'un pacte, donc les enseignants ont aujourd'hui ils contractualisent une partie de leur salaire, alors pas tout hein, mais une partie pour l'instant petite mais quand même non négligeable du salaire. Ils le font parce que c'est favorisé, parce qu'ils ont été tellement précarisés qu'à un moment donné, quand tu as du mal à payer tes factures et tout, tu t'engages dans cette part variable du salaire. Et aussi parce que le nouveau management public joue sur tout un tas de ressorts narcissiques, comme je disais tout à l'heure, parce que du coup, tu vas devenir plus compétent à leurs yeux, hein, tu deviens un meilleur professionnel. Et tu ça te fait un peu la promesse de te développer professionnellement et personnellement, et donc plus facilement tu t'engages dans ces réformes qui deviennent effectivement qui sont nouvelles en tout cas dans le métier des professeurs des écoles et qui deviennent un instrument de leur prolétarisation.
Alors, il y a cet aspect donc du salaire différentiel, une espèce de carotte, hein, mais il y a aussi les bâtons. Les bâtons, c'est par exemple les postes à profil. C'est une certaine manière d'encadrer et d'engager un petit peu contre leur gré les professeurs. Comment ça se passe ça, les postes à profil?
Oui, bah les postes à profil, c'est dans cette même philosophie, néolibérale, comme dont on parlait tout à l'heure, où l'établissement doit fonctionner comme une mini entreprise avec un pilote, et bien sûr l'étape d'après qui a émergé au moment du Grenelle de l'éducation, c'est de dire il faut aussi que ces pilotes là, ils puissent choisir leur équipe, d'accord. Donc avec toutes ces notions de projet, etc., ça ouvre la porte à dire que les directeurs et directrices d'école, ou en l'occurrence, pour l'instant, c'est pas encore vraiment le cas, mais en tout cas que localement, il faudrait que ces pilotes-là, pour pouvoir s'assurer que tous les enseignants de leur école s'engagent dans les mêmes projets, eh bien, ils les choisissent. Et ça, Jean-Michel Blanquer en parlait dans son livre, hein, et on avait déjà quand même des premières fenêtres qui... comme des fenêtres d'Overton, là, tu vois, qui s'étaient un petit peu ouvertes là-dessus, avec la mise en place des cités éducatives, des classes, les enseignants, les enseignants qui écoutent comprendront, mais en tout cas, il y avait déjà cette idée que sur certaines écoles, on pouvait commencer à flécher les postes, on n'appelait pas ça des postes à profil, mais des postes fléchés, et pour pouvoir y accéder, il faudrait être plus du côté « je montre mon CV pour pouvoir embaucher » que du côté de ce qui a toujours existé dans la profession. C'est un mouvement national auquel les enseignants peuvent postuler. Ils y postulent en fonction de leur ancienneté. Ils ont un certain nombre de points qui leur permet de pouvoir accéder au poste qu'ils ont demandé en fonction des points qu'ils ont. Et pour vérifier que tout ça fonctionne, les organisations syndicales représentatives, elles siégeaient à des commissions qui permettaient d'observer que la règle était bien respectée pour tout le monde et qu'elle était la même pour tout le monde. D'accord ? Voilà, et ces commissions, elles ont sauté. Les ministres sous Macron se sont attaqués aux commissions paritaires, donc ils ont individualisé les parcours des enseignants, et on se retrouve de plus en plus avec des enseignants tout seuls face à leur administration, et l'objectif à terme, c'est que chaque enseignant ait son CV, et que pour pouvoir changer de poste, pour pouvoir être nommé à tel ou tel endroit, il faudra qu'il aille démarcher l'école, quoi. Comme c'est dans les pays anglo-saxons.
Oui, tu le soulignes bien dans ton livre, hein, la fin du paritarisme. L'individualisation et la contractualisation finalement de chaque enseignant, isolément, chacun livré un petit peu au bon vouloir de sa hiérarchie et contraint donc de peaufiner son CV et son propre parcours professionnel dans une sorte de compétition de tous contre tous, hein. C'est bien ce qui est en train de se dessiner dans le métier d'enseignant, justement casser encore une fois le collectif professionnel en se reprenant à ce qui faisait la base du statut et des garanties professionnelles qui permettaient donc une égalité en tout cas sur le recrutement et sur l'avancement professionnel des enseignants. Une autre forme de coercition qui est celle du baillon. Alors c'est, je crois, dans la loi, hein, qu'avait inspiré Blanquer, qui sermonnait les enseignants en leur disant qu'il fallait qu'ils soient exemplaires et qu'ils ne fassent surtout pas preuve d'esprit de contradiction vis-à-vis des directives, vis-à-vis des lois des décrets ou des réformes qui étaient mises en place. Et on a même vu des enseignants être sévèrement sanctionnés pour avoir défié en quelque sorte les directives ministérielles.
Et oui, alors là tu fais référence à l'école de la loi dite école de la confiance. Tu as vu encore l'utilisation de la nouvelle langue
bien confiance sûr.
Pour en fait te dire qu'on va te surveiller et te fliquer et te punir si en plus tu te rebelles trop. Mais elle s'appelle l'école de la confiance et c'était dans cette loi il y a eu cette volonté de mettre à l'intérieur des éléments qui rompent avec l'histoire de la fonction publique, hein, avec et qui engage à ce que tu as dit, à l'exemplarité. Les enseignants doivent être exemplaires et même ils doivent une loyauté sans faille à leur institution. D'accord, ça, je cite entre guillemets. Alors ça, c'est tu sais, alors on n'en est pas encore aux fonctionnaires qui devaient une soumission constante à sa hiérarchie, ça c'était sous Vichy, tu vois. Oui. Mais quand même, on a un retour à cette idée-là que l'enseignant doit une loyauté, et donc en fait, il ne doit pas critiquer les réformes, comme je suis en train de le faire là sur ta radio, tu vois, et il ne doit pas non plus les contester, il ne doit pas s'y opposer de manière ostentatoire, etc., etc. Et donc pour ça, il y a tout ce que je t'ai dit tout à l'heure qui se met en place, les réformes, la formation, le reporting, tout le nouveau management public. Mais malgré ça, il y en a encore qui résistent. Il y en a encore beaucoup d'ailleurs, tu vois en fait, parce que quand même les professeurs des écoles, ils ont la liberté dont on a parlé tout à l'heure. Il y a la souveraineté du Conseil des maîtres. Il y a surtout une histoire et une tradition qui est très longue. Il y a des syndicats, il y a des associations, des mouvements d'éducation populaire, des associations pédagogiques qui jouent encore un rôle très important dans le métier. Et donc le dernier rempart, c'est, tu as parlé de bâton, hein, c'est une bonne image, hein, c'est comment est-ce qu'on va faire pour surveiller et punir, comme disait Foucault, les récalcitrants. Et on a effectivement des remontées de terrain qui ne sont pas bonnes, hein, de collègues qui ont été inquiétés pour avoir contesté des réformes. Je pense l'histoire des 4 de mai, l'histoire avant dans l'ère Falo, quand même, ça a existé. Hein. En fait, ça a toujours existé, puisque Freinet lui-même, il se faisait oui. taper sur les doigts par son institution. Mais du coup, là, il y a effectivement des collègues. Il y a Kaïté Rada, par exemple, l'année dernière, qui s'est fait déplacer pour le bien du service, sans autre forme de procès. Donc, il a changé d'établissement. Et en fait, en réalité, l'État et notre administration, l'éducation nationale, possède tout un arsenal. Hein. Il existe la faute disciplinaire, il existe 4 groupes de sanctions disciplinaires et qui ne sont pas forcément utilisés pour des enseignants, parce qu'il pourrait y avoir des gens complètement dysfonctionnants, hein, des gens violents avec des enfants ou quoi. On peut imaginer que c'est logique qu'il y ait des sanctions disciplinaires. Mais là, si tu veux, il y a une tentation, en mettant tout ça dans la loi, de pouvoir utiliser des sanctions disciplinaires pour exercer une coercition sur des gens qui refuseraient les réformes, les critiqueraient, ou tu vois, ou ne s'y engageraient pas de manière spontanée. Et c'est quand même extrêmement grave. Et ça fait peur en plus, parce que là, je te parle de ceux qui ont été réprimés. Il y en a, hein, parce que là, en plus, je te parle de ceux qui sont dans les écrans radars des syndicats et tout ça. Mais il y a tout un tas de gens qui sont sous les radars et qu'on ne sait pas exactement. Mais au-delà de ça, tu comprends qu'il y a cette l'idée que tu peux être sanctionné, elle est suffisamment puissante pour pour jouer sur ton comportement. La peur, elle va influer les comportements des gens. Il y a pas la peine de sanctionner tout le monde. Le simple fait de dire, regardez, on en a sanctionné un, les autres ont peur, et la peur, eh bien, elle te pousse à modifier tes comportements. Ouais. Ouais.
Finalement, pour Blanquer et son monde, l'idéal ne serait-il pas une école sans enseignants?
Ah ben écoute, c'est une question que je pose, c'est une question ouverte, hein. Je ne vais pas y répondre maintenant, mais c'est vrai que tu sais, le taylorisme, ça a créé le fordisme, et puis finalement la mécanisation, la machinisation des industries automobiles, où il n'y a plus besoin d'ouvriers, c'est remplacé par des machines, hein, tu vois. C'est quand même le but ultime de la classe dominante, ça serait de remplacer tous les travailleurs par des robots, des logiciels, en l'occurrence pour les enseignants. Et il y a déjà des expériences de ça, hein, et notamment pendant le Covid, on a expérimenté tout un tas de sous le vocable de la continuité pédagogique, on a expérimenté tout un tas de dispositifs qui permettent de faire de l'enseignement à distance. Et ça, je trouve ça particulièrement inquiétant. J'ai fait une recherche là-dessus aussi pendant le moment du Covid. Hein. J'ai interrogé, j'avais une douzaine d'enseignants qui ont accepté, et je profite d'avoir la parole sur tes ondes pour les remercier, parce que la période était compliquée, hein, celle du confinement. Pendant le confinement, ils m'ont montré tout ce qu'ils faisaient, ils m'ont montré des vidéos de comment ils interagissaient avec leurs élèves qui étaient eux aussi confinés, tout ça. Et moi, je me suis dit, il y a quand même quelque chose là d'assez puissant. D'autant que tout ça, c'était un marché. C'est un gros marché financier. Ouais. Qu'il y a des sommets internationaux, comme les sommets du WISE qui se déroulent au Qatar et ou dans lesquels tous les marchands d'éducation, les marchands de logiciels, les marchands de tous les services qui sont qui pourraient avantageusement, je parle pas avantageusement pour ni pour les profs ni pour les élèves, mais avantageusement pour un système capitaliste, remplacer les enseignantes et les enseignants. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère quand on voit la vitesse de développement de l'intelligence artificielle. Bien, il y a quand même, alors c'est pas une inquiétude, parce que je suis pas anti-techniciste ou quelque chose comme ça, mais je me dis que si on prend pas cette question, si on n'étudie pas politiquement, syndicalement, sur le plan militant, eh ben on risque de passer à côté de quelque chose de très très fort qui est en train de se jouer dans la société là.
Le ministre Blanquer était très très affamé, assoiffé de neurosciences et de sciences cognitives. Il avait créé un conseil national scientifique de l'éducation et en même temps il était contre le pédagogisme. Tu peux nous illustrer ça? Je crois qu'il avait mis à la tête de ce conseil national un neuroscientifique connu et reconnu dans le métier, hein, Stanislas Dehaene. Comme si les neurosciences, grâce à l'imagerie IRM, allaient nous permettre de découvrir les ressorts intimes de l'apprentissage, et qu'en appuyant sur tel ou tel bouton, tel ou tel groupe de neurones, on allait pouvoir faciliter la lecture, le calcul, l'acquisition des fondamentaux. On n'a rien dit sur les fondamentaux d'ailleurs.
Alors oui, je ne dresse pas la même vision de ce que sont les sciences cognitives. Hein. Je ne dis pas que c'est juste des imageries cérébrales j'ai conscience de l'importance que ça a aussi dans la compréhension du cerveau humain et donc des manières d'apprendre chez les enfants, etc. Ce qu'il y a, c'est que d'abord, Jean-Michel Blanquer, notons qu'il a créé ce conseil scientifique de la même manière que Taylor, lui, créait des bureaux d'organisation du travail scientifique. Donc, c'est-à-dire cette idée que c'est la science qui va prescrire. La science qui va prescrire. Et lui, très rapidement, il a réduit son conseil scientifique aux neurosciences, c'est-à-dire des sciences qui sont, selon lui, objectivables. Au passage, il a quand même gommé des débats qui existe à l'intérieur des neurosciences, parce que quand même, on ne peut pas dire que tous les neurosciences pensent la même chose au même moment non plus. Hein. Il y a des débats très intéressants, dont les enseignants sont privés d'accès, mais qui sont très intéressants. Et aujourd'hui, il y a peut-être des neuroscientifiques qui ne disent pas la même chose les uns avec les autres. Mmh. Et donc, mais par contre, il a enlevé de ce conseil scientifique tout ce qui relevait de... qui pouvait rapatrier dans les réflexions scientifiques qui peuvent être portées sur l'école et sur les élèves, les notions sociales, par exemple, tous les sociologues, tout ce qui pouvait parler des inégalités qui sont liées aux conditions matérielles d'existence, qui sont liées au capital culturel des élèves, etc. Ça a été complètement écarté. Parce que en réalité, la vision qui peut être portée, qui a été portée par Blanquer de ce que sont les neurosciences, il en a extrait une toute petite partie qui est compatible avec la vision néolibérale de la société, où en réalité on aurait tous des dons, des talents qu'il suffit de faire fructifier. Tu vois? Donc c'était compatible avec ça. Et en même temps, tu as raison de parler du pédagogisme, mais il y a quand même derrière, je ne vais pas détailler longtemps, mais il y a quand même une idée revancharde des idées de 68 et donc cette idée que la pédagogie, c'est-à-dire la relation, l'étude de la relation qu'il peut y avoir entre un adulte, un enfant, un sachant et un apprenant, etc., ça, on le met de côté parce que les enseignants doivent avoir des compétences techniques qui sont éprouvées dans un laboratoire et qui leur permettent de faire du bon travail. C'est vraiment contre tout ça que je me dresse, quoi.
Dans les quelques petites minutes qui nous restent, juste un mot pour revenir sur un des fondamentaux, et là cette fois on en parle, de l'éducation telle que nous le concevons, nous ici à Radio Libertaire et aussi dans le vaste mouvement d'éducation populaire et aussi dans le mouvement anarchiste historiquement, l'école au service de l'émancipation. Alors à mon avis c'est ça vraiment que tu défends dans ton livre. Il s'agit pas seulement de... Ce n'est pas du tout, et c'est bien, bien important, c'est pas une défense catégorielle des enseignants, c'est vraiment une vision de l'éducation comme étant l'outil, un des outils au service de l'émancipation individuelle et collective.
Oui, exactement. Et en réalité, tout le phénomène de prolétarisation, si tu veux, il conduit à aller à l'encontre de ce que Francisco Ferrer, Paulo Freire,
Freinet aussi.
Tolstoï, Freinet, oui. Niel aussi, avec son expérience de Sommerville, parce que parce qu'en réalité, eux, ils militent, cette classe dominante néolibérale, elle milite de manière autoritaire, en plus, de plus en plus autoritaire, pour une école inégalitaire. Une école où, en fait, elle serait le tri entre ceux qui vont être ouvriers et qui n'ont pas besoin, selon eux, d'être outillés de savoir, d'esprit critique, etc., etc., et ceux qui vont être dans la reproduction de leur propre classe. Et donc, du coup, évidemment, pour une grande stratégie, c'est de faire croire que l'école, c'est l'école des fondamentaux et qu'elle apprend le français et les maths. Okay ? Alors déjà, notons une chose, c'est qu'ils ont... Déjà, dans cette notion de français et maths, c'est la portion congrue, parce que c'est pas lire et faire des maths, c'est déchiffrer et compter, hein, c'est déjà pas pareil. Mais au-delà de ça, on a complètement écarté de la formation des enseignants, de leur formation continue, toutes les autres disciplines. C'est quand même hyper grave, hein. C'est-à-dire que la formation des enseignants, elle est aujourd'hui centrée que sur déchiffrer et compter. Or, il ne t'a pas échappé qu'un enfant, il grandit pas uniquement en faisant du français et des maths, mais en s'ouvrant sur le monde, en apprenant des disciplines artistiques, culturelles, en faisant de l'éducation physique et sportive, etc., etc. Mais en vérité, ça, la classe dominante, elle le sait, hein, t'inquiète pas, les enfants d'Oudéa Castéra, ils font, hein, très probablement du théâtre, ils inscrivent leurs enfants au conservatoire, ils leur font faire du handball ou de la danse ou je sais pas trop quoi, parce qu'ils savent l'importance que ça a dans plus tard, d'accord? En vérité, ils ont voulu priver les gosses du peuple de ces formes-là d'apprentissage.
C'est la fin de notre enregistrement, de notre émission. Je ne me reste plus qu'à te remercier. On aurait encore beaucoup, beaucoup à dire sur cette prolétarisation de l'enseignement. Je rappelle le titre de ton livre, « Enseignant les nouveaux prolétaires, le taylorisme à l'école ». C'est paru aux éditions ESF dans la collection Sciences humaines. Frédéric Grimaud, tu as un blog aussi, je crois.
Oui, j'ai un site internet en cours. Alors, il est en cours. Je suis comme toi, techniquement, je sais pas, j'ai eu des petits soucis à mettre ce blog. Il y a un blog frédéricgrimaud.com et sur Mediapart, une chronique que je tiens sur le taylorisme à l'école, qui s'appelle l'école de Taylor sur Mediapart.
En tout cas, merci infiniment à toi et merci pour ta patience et pour ta gentillesse et surtout pour les éléments que tu nous donnes pour la défense d'une école émancipatrice et une école au service de l'éducation de tous et de toutes afin d'espérer améliorer et changer notre société. Merci encore Frédéric, à très bientôt.
Merci, merci. Au revoir.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne craque connurent tout à coup la faillite, le crack, la faillite, le crack. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex-écho, d'excellence ex-écho. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats,
jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile, alors recteur d'académie, de l'école en dépit de son beau palmarès. On chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le forant thème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe ex aequo, de la classe ex aequo. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.
Avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles. Étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des sables de la mer, tournant la manivelle de petits sous-marins. Pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer. Juillet devant l'hiver, j'y voulais l'attraper, mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver. Et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée. Et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remercié.
Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, à dorer à travers sur la voie de chemin de fer qu'il ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu.
À cheval, en voiture.
On a écouté successivement Maxime Le Forestier qui interprétait une très belle chanson écrite par Georges Brassens, La maîtresse d'école, Pink Floyd, Breaking the Wall, et puis la très belle et célèbre chanson de Prévert, mise en musique par Cosma, interprétée ici par deux gars plein de voix. Voilà, c'est la fin de notre émission sur Radio Libertaire, la société dans tous ses états. On se retrouve le troisième lundi du mois d'avril. Avant de vous quitter et de mettre le générique, une annonce, une nouvelle émission sur Radio Libertaire, Le nucléaire et son monde, animé par Mathieu, qui aura lieu tous les troisièmes jeudis du mois de 11h à 12h. La première émission se tiendra cette semaine, ce jeudi 21 mars. À très bientôt, avant de vous laisser avec les amis et compagnons du monde merveilleux du travail, notre générique de l'émission, donc La société dans ses états. À très bientôt.
Thank you. instant formidable. Je passe, pas de flic en face, ni sur les côtés. Ouf, je suis passé, je suis dans la rue, personne ne m'a vu. Je vais tout jeter sur un gros tas d'ordures. J'ai raconté ça hier à Léa, elle m'a dit mon cœur va voir un docteur. Je n'irai jamais, il m'enlèverait ma petite maladie. Mais le plaisir aussi, et le plaisir messieurs, qu'y a-t-il de mieux, de plus doux mesdames, pour réchauffer l'âme. Je m'en suis confessé, mais le vieux curé m'a dit, ce que tu fauches, que ça serve à quelque chose, donne-le au moins à ceux qui n'ont rien. Mais c'est pas mon style, faudrait que je pique utile, plus au petit bonheur, une plaquette de beurre, n'importe quel machin dont j'ai pas besoin. Faudrait, hypocrite, que je prémédite. Et sur mon honneur, je suis pas un voleur.
Minou, où est-ce qu'il est encore passé ce maudit chat?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation, animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leur 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Je suis un
J'ai encore des bonnes oreilles.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold.
Édito du 18 mars 2024 du Monde Merveilleux du Travail. Parce que nous sommes précisément le 18 mars, nous ne pouvions pas, dans le Monde Merveilleux du Travail, manquer d'évoquer la proclamation de la Commune de 1871. Il peut paraître redondant de parler sur les ondes de Radio Libertaire d'un événement qui s'est déroulé il y a 153 ans. Oui, ça peut, mais on va le faire quand même, et avec deux invités. Norbert, que vous connaissez tous, puisqu'il est bien souvent invité ici, et Frédéric, son acolyte. De mon côté, j'ai moi aussi mon alcoolique, Eric, à l'animation. Bénédicte sera absente à la technique, ce qui... Et qui, comme son nom, son prénom, voilà, rime avec dicte, et ben, nous rythmera pas à grands coups de musique, de fanfare, nos émissions. Ce sera moi. Pourquoi cette date du 18 mars nous semble-t-elle importante à rappeler? Quel aura été l'impact de cette proclamation? Les conditions d'une révolution sociale sont-elles réunies pour la voir refleurir? Et enfin venger nos martyrs, massacrés par la bourgeoisie écœurante. Nous sommes là pour en parler, entre anarchistes, syndicalistes révolutionnaires et blanquistes, comme à l'époque, quoi.